Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
Un dimanche au bord de l'eau.
La curiosité est un vilain défaut.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'eau vive de Guy Béard, mais d'où vient l'eau de Paris? Qui s'est battue pour qu'elle soit pure et de première qualité? Comme le pain, la capitale peut-elle un jour manquer d'eau? On répond à toutes ces questions et à plein d'autres dans La Curiosité avec Philippe Chalère. Bonsoir.
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 Bienvenue, vous êtes journaliste au magazine 75, vous avez enquêté sur l'eau de Paris. Première surprise, elle vient de loin.
Oui, une partie de l'eau vient de traître en l'Ain, de sources qui sont à plus de 150 km, qui sont même plus en Île-de-France, qui sont dans l'Yonne, en Bourgogne.
Donc ça, c'est le point de captage le plus éloigné de Notre-Dame, du point zéro, puisqu'on a appris il y a quelques jours que le point zéro était marqué sur le sol en face de Notre-Dame. Saint-Benoît-sur-Vanne, dans l'Aube, c'est ça? Vous l'avez visité, ce site?
Oui, effectivement, c'est le site qu'on a pu visiter. C'est vraiment le plus ancien et le plus lointain, vraiment à 156 km de Paris. Et voilà, c'est le captage d'Armentières, qui est une des sources de la Vanne.
La Vanne, c'est le nom de la rivière.
C'est le nom de la rivière, oui.
Ce n'est pas une blague.
On aime bien les vannes, nous aussi, mais donc là, c'est la rivière. Mais... Ça ressemble à quoi, un point de captage?
Alors là, celui-là, il est presque bucolique, puisqu'il est dans une clairière au pied d'une colline et derrière une lourde porte en fer. On pénètre dans un endroit très frais, forcément, et avec de grandes galeries en craie qui ont été creusées à la pioche à l'époque, qui sont inondées d'environ 2 mètres d'eau.
On a presque envie de s'y baigner, on voit des photos dans votre magazine 75. Oui. On dirait un chai avec de l'eau verte.
Alors ça, c'est l'effet visuel qui vient peut-être ça. Non, l'eau est assez transparente, en réalité. Ouais, elle est vraiment transparente. Mais c'est un endroit magique.
Cette eau, en combien de temps est-ce qu'elle parcourt les 156 km qui la séparent de Paris?
Oui, alors celle-là, effectivement, elle met beaucoup de temps. Elle met près de 70 heures. Elle arrive très, très doucement.
Avec quoi? Un système de pompe, j'imagine, pour l'actionner?
Ça, c'était le génie d'Eugène Belgrand, qui était l'ingénieur des aqueducs de Paris. Il fait venir ses eaux par simple gravité. En réalité.
Mais comment c'est possible? C'est pas la montagne l'Aube?
C'est un système de... Non, ce captage d'Armentières, il est à 40 mètres de dénivelé, je crois. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose. Mais ils ont réussi à faire une pente très douce, en réalité, de 10 cm tous les kilomètres environ. Voilà, un aqueduc qui suit les courbes de niveau.
C'est génial.
Qui fait tout en sorte pour que cette moyenne de 10 cm par kilomètre soit respectée jusqu'à Paris. Il y a quelques tronçons d'aqueduc où il y a des usines de relevage, parce que la topographie n'a pas rendu les choses facile, mais globalement, sur la très grande partie du réseau, ça arrive naturellement.
Alors, vous disiez que l'inventeur de ce système, c'était qui? Vous nous en avez...
Donc, c'est Eugène Belgrand, ouais. qui est un architecte et ingénieur et qui a été missionné par le fameux baron Haussmann pour créer ce réseau.
Ah, donc, on est au 19e,
plein, au 19e ouais. siècle, même au milieu du 19e siècle. Et c'est un réseau qui est toujours en place aujourd'hui. Ces aqueducs sont les mêmes. Alors, ils sont entretenus, mais le réseau n'a pas bougé.
Et vous racontez dans votre article une session de... C'est pas le terme, mais c'est pas grave... Du Conseil de Paris à laquelle assiste le baron Haussmann. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape du poing sur la table, en quelque sorte.
Oui, hein. Il tape un peu du poing sur la table. Alors, il a été à l'origine de beaucoup de révolutions dans la ville, et alors de celle-là aussi. Voilà, il éructe, ou je ne sais comment dire, mais il s'esclave en Conseil de Paris en disant que l'eau doit être de première qualité, comme le pain.
Aussi bonne que le pain. Et donc ça lance un énième grand chantier, grand projet du baron Haussmann. Ça veut dire que à l'époque, avant cette décision, on est, je crois, en 1859, de mémoire dans votre article, l'eau de Paris, c'était quoi? C'était imbuvable?
Il y avait quelques sources d'approvisionnement souterrain, mais qui étaient en forte baisse, comme la nappe de l'Albien, qui est sous Paris, mais qui était une nappe qui avait tendance à disparaître, à avoir moins d'eau. Et sinon, les Parisiens prenaient de l'eau qui était sans doute pas terrible à consommer.
Ça veut dire, Philippe Chalère, qu'aujourd'hui, tous les Parisiens boivent de l'eau de source?
Malheureusement, non. Ah. On va dire qu'environ 50% de l'approvisionnement, c'est de l'eau de source. Ce qui est plutôt chanceux à Paris comparé aux villes d'Île-de-France, qui en grande majorité ne boivent que de l'eau de fleuve traitée. C'est l'héritage en fait de ces travaux d'Eugène Belgrand, qui allait chercher l'eau très loin de l'eau de source, puisque à l'époque, dans le débat hygiéniste de l'époque, on estimait que l'eau la plus pure qui était, c'était l'eau qui était enfouie sous terre et qui ne voyait pas la lumière.
Ça a sans doute intéresser les Parisiens qui nous écoutent. qui boit de l'eau de source à Paris? Quel quartier?
Alors en réalité, vous n'avez pas vraiment le choix. Ça dépend de l'arrondissement et du quartier où vous vivez.
En gros, c'est plus l'est, ouest, le sud, le nord.
Alors pour faire une description assez rapide, les arrondissements centraux qui sont de part et d'autre de la Seine, eux boivent sont plutôt les chanceux. C'est ils boivent des eaux de source mélangées de la Loing et de la Voulzie, mais c'est vraiment purement de l'eau de source. Le nord-ouest boit une eau de source aussi, l'Avre. Le sud boit de l'eau de source et de la Seine mélangée. Mmh. Et l'Est parisien, 18e, 19e, 20e et 12e arrondissement, boivent des eaux mélangées de la Seine et de la Marne, traitées bien sûr.
Alors la qualité de l'eau du robinet, ça nous concerne tous, quelle que soit notre région. C'est l'aliment, vous allez le voir, qui fait l'objet du plus de contrôle. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Je t'en prie, ne sois pas farouche. Me vient l'eau à la bouche.
RTL.
Prenez du plaisir à faire des ronds dans l'eau.
La curiosité est un vilain défaut.
Envie de l'eau que vogue leur bateau.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On a la curiosité de découvrir comment Paris et ses 2,229 millions, ça fait du monde quand même, d'habitants sont approvisionnés en eau. Et c'est le journaliste Philippe Chaler qui a enquêté sur cet aliment particulièrement surveillé pour le magazine 75, et c'est en partenariat avec RTL. Alors quand l'eau vient d'une rivière ou d'un fleuve, elle est forcément traitée. Comment fonctionnent ces usines de potabilisation?
Oui, alors il y en a deux pour traiter l'eau de Paris. Celle de la Seine est à Orly et celle de la Marne à Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne. En fait, l'eau passe plusieurs étapes. Bon, c'est un peu technique, mais passe plusieurs étapes de filtrage. Il y a 7 ou 8 étapes qui filtrent des particules de plus en plus fines. Et ensuite, ils ont des techniques qui sont plus modernes. Le charbon actif, l'ozonation, les ultraviolets qui permettent vraiment de traquer l'infime des bactéries et des virus, des techniques qui n'existaient pas il y a encore 20 ans.
Mais est-ce que pour purifier cette eau, Philippe Chaler, on utilise des produits chimiques?
Alors la prétention en tout cas d'eau de Paris, l'opérateur, c'est vraiment de réduire au maximum l'usage de produits chimiques, notamment par l'application des vieilles mm-hmm. pratiques en réalité. Un des filtrages qui est le plus important à Joinville-le-Pont, c'est les bassins filtrants. C'est de l'eau qui traverse tout simplement des couches de sable et qui est filtrée de cette manière. Ça reproduit l'infiltration dans le sol de l'eau naturellement qui rejoint la nappe phréatique.
Mais elle est quand même chlorée.
Alors, elle est chlorée en fin de chaîne, effectivement. C'est la norme pour assurer sa potabilité, mm-hmm. et surtout pour assurer le transport, puisque l'eau met encore un peu de temps pour partir des usines et rejoindre les robinets. Elle pourrait présenter le risque de se dégrader si elle n'était pas chlorée.
Est-ce que Paris pourrait manquer d'eau? Est-ce que c'est une possibilité, ça? On a vu que, finalement, Paris dépendait des régions, des départements qui l'entourent, puisqu'il faut aller jusque dans Lyon, par exemple, pratiquement en Bourgogne, pour trouver l'une des sources de l'eau de Paris. Est-ce que Paris pourrait manquer d'eau?
Alors actuellement, non, puisqu'il y a une consommation qui est aux alentours des 500 000 mètres cubes d'eau, et ces différents approvisionnements peuvent produire plus d'un million de mètres cubes d'eau. Donc a priori, il n'y a pas de problème. Certaines hypothèses pessimistes alertent quand même sur un risque de baisse des réserves à la fin du siècle, avec un stress hydrique avec des hypothèses très pessimistes si on ne faisait rien pour lutter contre le changement climatique notamment.
Alors dans votre papier de dossier même, Philippe Chaler du magazine 75, on apprend que les Parisiens et les touristes qui visitent la capitale consomment 470 000 mètres cubes en moyenne d'eau par jour. C'est quoi la saison la plus vorace en eau? Moi je dirais l'été.
Voilà, c'est l'été, c'est les mois de juin et de juillet, moins août, puisque les Parisiens sont plutôt beaucoup en vacances, ce qui fait que la chaleur compense leur absence. Et pour l'anecdote, en fait, le pic de consommation d'eau a été une anecdote un peu footballistique. Le pic historique de la consommation d'eau en quelques minutes, ça a été à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde 1998.
C'est ce que je voulais vous dire.
Voilà, les gens ne voulaient pas en perdre une miette et ils sont allés tous se précipiter soit aux toilettes, soit au robinet pendant cette mi-temps.
Il y a ça aussi, il y a ce phénomène aux États-Unis pendant les finales de Super Bowl où il y a une consommation d'eau à pic pendant les arrêts de jeu ou les tiers-temps. Parlons un peu de business, tiens. Qui gère gère l'eau de Paris? C'est un organisme privé ou public?
Non, c'est un organisme public. La ville de Paris a décidé de remunicipaliser la gestion de l'eau en 2008, après 25 ans de gestion privée. Donc là, c'est vraiment public depuis maintenant une petite dizaine d'années.
Alors j'imagine qu'il y a des goûteurs, c'est ça, de l'eau, des sortes de sommeliers mais d'eau.
Oui, on les voit en photo dans votre article.
Oui, j'attaque le papier par ça. Parce que c'est,
quel super job.
Alors, il n'y a pas beaucoup de grands crus ni d'arômes très fruités en réalité.
Non, mais les eaux ont des goûts différents, ça c'est sûr.
Oui, alors, a priori, quand ils sont appelés, c'est pas pour de très bonnes raisons. C'est quand quelqu'un se plaint, voilà. C'est quand un Parisien trouve une couleur suspecte ou un goût un peu étrange. Et voilà, il demande à faire une analyse un peu gustative de la qualité de l'eau.
Mmh. Mais ça, d'ailleurs, c'est juste gustative.
Ah bah cette étape-là, elle est gustative, effectivement. Mais quelquefois, le palais peut...
Non mais c'est étonnant, c'est dire, ah bah oui, ça, c'est vraiment pas
ensuite,
bon.
Ensuite, il y a des produits, il y a des tests quoi, qui sont un peu sérieux. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il y avait juste...
C'est pas bon, et alors
bah, débrouillez-vous. Il y a combien de... C'est quoi la proportion des... Alors là, on parle des Parisiens, mais les chiffres doivent être un peu pareils dans toutes les grandes villes, qui boivent de l'eau du robinet. C'est beaucoup, moi je ne me rends pas compte, c'est 40%, 50% des habitants d'une grande ville,
non,
c'est beaucoup
plus que ça. Il y a 4 Parisiens sur 5, 80% des gens qui en boivent, qui s'en servent, et il y a 40% qui ne boivent exclusivement que l'eau de Paris.
On conseille même de la donner aux enfants. Ouais. On dit que c'est plein d'oligo-éléments et que c'est aussi bien qu'une autre source.
Bon, ça fait sans doute partie de la communication, mais effectivement, ce qui est pratique avec l'eau du robinet, c'est qu'elle est juste pratique, elle est à portée de main d'une certaine manière, elle est écologique aussi, quelque chose qui est dans l'air du temps. Il n'y a pas de bouteille en plastique, voilà, on a juste à tourner le robinet et puis elle est moins chère aussi.
Mais alors, qu'est-ce qui peut rendre la consommation de l'eau impropre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une eau ne peut ne pas être bonne? Qu'est-ce qui peut arriver dans ce circuit finalement?
D'après Haute-Paris, actuellement rien en réalité. Ils estiment que toutes les étapes de filtrage et de traitement, voilà, c'est 7 ou 8 étapes que j'ai évoquées auparavant.
Mais d'après le journaliste...
Alors, il y a des menaces qui sont néanmoins là, notamment les pesticides. Voilà, le bassin parisien est assez gourmand en usage de pesticides.
Alors ça, on parlera des agriculteurs tout à l'heure. Oui. Mais vous racontez, pardon, je vous interromps, mais vous racontez dans votre article l'histoire d'un immeuble du 10e arrondissement de Paris où là, il y a vraiment un souci, c'est le plomb. Oui, alors ça dépend pas de
l'eau
de Paris.
Alors ça, c'est quelqu'un parmi d'autres parce qu'il y en a beaucoup. Non, ça dépend pas de Paris. Sa responsabilité s'arrête au pied de l'immeuble et les canalisations dans les immeubles sont du registre de la copropriété. Alors c'est un peu dommage parce que c'est un peu la seule faille un peu dans le système, c'est qu'il procure une eau qui est plutôt très reconnue et quelquefois elle est un peu gâchée, si on peut dire, en arrivant dans les appartements des gens.
Pourquoi? Par la vétusté des canalisations.
Pas la vétusté, c'était juste l'usage. C'est que dans les immeubles jusque dans les années 50 et 60, il y avait des canalisations en plomb. Et voilà, la norme européenne ayant changé récemment, ça peut être problématique.
C'est tout de Paris, allez-y. Ah bah voilà, mais je voulais le faire. Est-elle plus chère que partout ailleurs en France? Quel rôle jouent les agriculteurs justement d'Île-de-France pour améliorer sa qualité? On continue de vous raconter les coulisses de la fabrication de l'eau juste après les infos sur RTL.
Et puis dans notre seconde heure de curiosité, on revivra l'un des plus grands procès du XXe siècle. C'était il y a 70 ans, le procès de Nuremberg.
Dans un instant, retour de la curiosité.
Vous écoutez RTL.
Au vent de l'eau, il y a cette vie qui m'appelle.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue.
RTL.
À qui les voleurs des billets? À qui les lèleurs des billots? Des billets si beaux, des billots si laids. Si l'être un des bibots, c'est bien le beau des billets.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans la curiosité, on vous raconte l'histoire de l'eau de Paris. C'est grâce au baron Haussmann en 1859 que les Parisiens et les touristes peuvent consommer une eau de qualité. C'est ce que notre invité, le journaliste Philippe Chalère, raconte dans un article du magazine 75 en partenariat avec RTL. Et puis au-delà de l'histoire, on comprend grâce à vous, et c'est passionnant, comment l'eau du robinet finalement devient propre à la consommation, que ce soit une eau de source ou alors une eau de rivière ou de fleuve, traitée évidemment avec ces usines de potabilisation. On parlait du risque du plomb en évoquant l'exemple, mais il y en a plein d'autres en France, d'un immeuble à Paris. Est-ce que c'est un risque important s'il y a trop de plomb dans l'eau?
Non, a priori non, il faut... On a eu des cas de saturnisme par le passé, mais c'était plutôt pour des peintures au plomb. C'est pour montrer qu'il y a une vraie différence avec cette quantité de plomb qui est vraiment minime dans l'eau. Voilà, les autorités sanitaires sont plus que rassurantes. Et il n'empêche que la norme européenne impose de changer ces canalisations en plomb à tous, en réalité.
Cette eau qui arrive à Paris, elle est stockée où?
Alors, elle n'est pas stockée.
Non.
Elle transite, par contre, par 5 réservoirs qui sont répartis dans la capitale. Mais l'eau n'est pas stockée. L'eau arrivant des différentes usines traverse ces réservoirs et rejoint ensuite les robinets des Parisiens.
Le réservoir, justement, de Montsouris, c'est quoi, dans le 14e arrondissement, c'est ça ? Vous l'avez visité ?
Ah non, malheureusement, on n'a pas pu le visiter, puisque plus personne ne peut y entrer dans le cadre du plan Vigipirate. C'est quand même des lieux voilà, qui sont sous la menace.
Et, d'un empoisonnement ?
D'un empoisonnement.
Par des terroristes, par exemple.
Voilà, enfin, ouais. Voilà, ils ne sont pas très disers sur la question, mais les conditions de sécurité sont beaucoup renforcées au cours des dernières années et des derniers mois, et plus personne n'y entre en réalité.
C'est un lieu, on a tous vu des photos ou des reportages, c'est un lieu impressionnant, c'est assez magique cet endroit.
On publie une belle photo là, dans le magazine, effectivement, mais cette eau est presque turquoise sous des belles arcades en pierre. Oui, ça a des airs de presque de cathédrale à moitié inondée. C'est assez magique. Oui.
Alors, Philippe Chalère, dans votre enquête, il est aussi question d'argent, et on va donc parler d'argent. L'eau de Paris, est-ce qu'elle est chère ? Est-ce qu'elle est plus chère que dans d'autres départements d'Île-de-France ou dans d'autres régions de France ?
Alors l'eau de Paris est relativement semblable dans la même gamme de prix des autres grandes villes de France. Par contre, elle est plutôt moins chère, et même la moins chère d'Île-de-France comparée à d'autres villes. Alors c'est sans doute une volonté politique aussi. Ils avaient baissé le prix de l'eau quand ils avaient remunicipalisé sa gestion. Donc on se retrouve avec une eau qui est parisienne, qui est beaucoup moins chère que toutes les villes aux alentours.
Quel est le rôle des agriculteurs qui sont en Île-de-France pour améliorer sa qualité ? Vous parliez quand même de pas mal de pollution en Île-de-France. Il y a des agriculteurs quand même qui s'engagent à la protéger, cette eau qu'on boit ?
Oui, effectivement, il y a des agriculteurs qui font le pari du bio. Alors c'est encore compliqué, ça, il suffit pas de le rappeler, on le sait. Néanmoins, l'opérateur public s'engage même lui-même à essayer de conseiller, de donner de l'aide dans des business plans, enfin à tout faire pour mettre les agriculteurs qui hésitent à franchir le pas, à le mettre dans des bonnes conditions pour le faire.
Mais pour se rendre compte, ils sont nombreux les agriculteurs comme ça qui font attention et qui font du bio en Île-de-France et qui ainsi ne polluent pas notre eau ?
Le chemin est encore long, mais ça existe. J'ai pu rencontrer un homme qui s'appelle Christophe Dupuis, qui est un céréalier, qui est le fils d'un céréalier conventionnel en réalité, qui est, voilà, pendant 30 ans a fait une agriculture à grand renfort de pesticides sans doute, et lui en reprenant l'exploitation voulait renoncer à tout ça, et il a entièrement converti son exploitation au bio depuis une dizaine d'années maintenant, voilà, bénéficiant des conseils de l'association Bio Bourgogne et aussi de terres qui lui ont été mises à disposition à un prix assez modique par Haute Paris, qui rachète des terres et propose des baux à des agriculteurs vraiment à des tarifs défiant toute concurrence, 1 à 2 euros l'hectare contre une centaine habituellement, voilà, mais sous la condition, bien sûr, de ne faire que du bio.
Mais Philippe Chalère, vous racontez aussi dans cet article du magazine 75 que l'eau de certains points de captage, à l'inverse, elle est surchargée en nitrate. Est-ce que c'est dangereux ?
Alors, le Haut-de-Paris se veut assez rassurant. Néanmoins, il est vrai que j'ai pu voir sur un document interne que certains points de captage de la source de la Voulzy, c'est au sud de Fontainebleau, ont des taux de nitrate qui sont supérieurs à la norme, voilà, qui sont de 50 microgrammes par litre.
Une question un peu bête, c'est quoi le nitrate ?
Les nitrates, c'est... Bonne question.
C'est un polluant, enfin, ça vient de... Ça
non,
vient...
en fait, c'est quelque chose qui est naturel, qui est une sorte d'engrais, en fait. Mais les agriculteurs peuvent en rajouter de manière...
Artificielle.
Et à trop forte dose, c'est ça, dans l'eau.
Voilà, mais la terre ne peut pas tout emmagasiner et ça se retrouve dans les nappes phréatiques.
Mais quand un point de captage a un taux de nitrate trop important, qu'est-ce qu'on fait ? On le ferme ? On ne l'utilise plus du tout ?
Alors non, voilà, j'ai posé la question à Célia Blauel, qui est une adjointe à d'Aldi Hidalgo, mais qui a la casquette d'être à la tête d'Haute Paris aussi. Eux se refusent à fermer les points de captage par sécurité. Ils estiment que plusieurs points de captage, ça permet de parer à toute éventualité. Et surtout, ils rappellent que si certains points de captage ont ce taux de nitrate supérieur à la moyenne, ces eaux sont mélangées avec des eaux qui sont beaucoup plus propres, qui fait que l'un dans l'autre...
Ça doit nous rassurer, ça ?
Oui, parce que l'eau, au final, elle est contrôlée. Et donc,
oui, elle est contrôlée. Non,
robinet,
de toute
façon, le taux est tolérable pour nous.
Bien sûr.
Oui, ça, c'est incontestable. Oui.
Et c'est pour ça que le mélange permet de faire retomber les taux à des niveaux, niveaux acceptables.
Merci infiniment, Philippe Chalère. C'était passionnant. Votre article est publié dans le magazine 75. C'est en partenariat avec RTL. À bientôt, au micro de la curiosité.
Vous écoutez RTL.